Comment lutter contre la surcharge mentale? Voyons ensemble comment lutter contre un phénomène que tous les étudiants en médecine rencontrent au cours de leur révision. Bienvenue dans le podcast de Réussir Médecine, le podcast où je t'enseigne comment faire mieux que 90% des étudiants en médecine au concours en utilisant des méthodes prouvées. Si tu me découvres lors de cet épisode ou si tu me suis déjà, je suis chirurgien et ma passion est de transmettre des méthodes qui te permettront d'apprendre plus efficacement, plus rapidement et être plus productif. Allez, c'est parti! Si tu n'as pas encore entendu parler de ce phénomène mental, tu l'as probablement déjà ressenti. Que ce soit les étudiants en médecine, les médecins, au cours de leur exercice, beaucoup d'entre nous vont devoir faire face à une très importante charge mentale. Nos longues et dures études, mais aussi notre métier stressant avec de lourdes implications psychologiques, sont la source d'une quantité de pensées toujours croissante. Additionné à cela le monde numérique dans lequel nous vivons, qui avance toujours plus rapidement, un sentiment de dépassement, de saturation peut rapidement être ressenti. Le problème est que ce phénomène peut rapidement mener à un épuisement psychique et moral pouvant aller jusqu'au burn-out. Nous allons voir dans cet épisode comment naît ce phénomène, mais aussi comment mieux l'appréhender et le combattre. Commençons par définir et comprendre ce qu'est la surcharge mentale. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton cerveau allait exploser après une journée de travail, ou de ne plus arriver à réfléchir à quoi que ce soit? Ce sentiment résulte d'une surchauffe de ton cerveau. Nous sommes passés d'une société où le travail manuel a été remplacé par le travail intellectuel. Cet état de charge mentale résulte de la nécessité de devoir réfléchir et de penser constamment à autre chose. Que ce soit la liste des cours que tu vas devoir réviser cette journée, la liste des courses alimentaires que tu dois constituer, un dossier administratif à remplir, et d'autres tâches, j'en passe, que tu dois réaliser quotidiennement. Toutes ces petites choses qui te préoccupent, te demandent de l'attention, vont progressivement embouteiller ton cerveau. La surcharge mentale peut aussi être décrite comme un nombre de tâches trop important à réaliser au cours de tes journées. Dans notre monde actuel, il est très facile d'être la proie du piège des informations continues, médias en ligne, réseaux sociaux, qui vont jouer sur le besoin d'être toujours alerté au sujet d'événements et donc de réduire encore plus notre capacité de réflexion à des choses importantes. Plus spécifiquement, pour tes études de médecine, tu as peut-être déjà ressenti au fil des jours de révision une surchauffe, l'impossibilité de te concentrer, l'impossibilité de retenir des informations. Ce ressenti traduit la surcharge mentale. Si tu arrives à ce stade, il est très important de le reconnaître, car le risque étant de se forcer à continuer de travailler et donc de passer d'un état de surchauffe à un état de burn-out complet. Personnellement, je me souviens m'être forcé lors de mes premières révisions à travailler malgré le fait que je ressentais l'incapacité à retenir les informations. Malgré cela, je poursuivais et arrivais en plus de moins en moins à me concentrer. À ce stade, le risque est de rentrer dans une spirale négative dans laquelle tu deviens moins concentré, moins productif, avec des idées négatives qui s'auto-entretiennent. Ces idées négatives sont aussi dues au fait que nous nous imposons une attente de résultats trop importante. À défaut de ces résultats, tu vas éprouver de la culpabilité. Si tu reconnais des signes de surcharge mentale au cours de ta journée, il est important que tu arrives à te libérer le cerveau durant quelques instants afin de faire une pause pour celui-ci. À la manière des sportifs et de leurs muscles, pour régénérer les muscles après un effort, tu as besoin de repos. C'est le même principe pour ton cerveau. Tu vas le voir, une pause te fera un bien incroyable. Nous allons à présent voir 4 étapes importantes pour éviter la surcharge mentale et mieux la combattre. Dans un premier temps, il est nécessaire que tu l'évalues. Le premier élément à connaître avant de vouloir diminuer sa charge mentale est son importance. Au-delà du simple ressenti de surcharge mentale, est-ce que réellement tu effectues trop de tâches mentales au cours de tes journées? Afin de connaître plus précisément sa charge mentale, il est judicieux que tu la comptabilises. Pour cela, je propose 2 techniques complémentaires. La première est la réalisation quotidienne de fiches dites « to-do list ». Ces fiches sont l'énumération des tâches importantes que tu dois réaliser dans une journée. Je précise bien « importantes », ce ne sont pas l'ensemble des petites tâches comme prendre une douche, aller aux toilettes, manger. C'est vraiment les tâches importantes, les tâches qui vont t'apporter quelque chose que tu dois y inscrire. Ces fiches sont l'énumération des tâches à réaliser dans la journée. Ainsi, tu vas pouvoir, en écrivant une fiche par jour, un petit calepin, constituer ton journal de bord de tes actions réalisées. Tu vas pouvoir observer si le nombre de tâches que tu réalises par jour augmente, leur complexité augmente, faisant un rapide contrôle rétrospectif. À cela, s'ajoute sa complémentarité, la Did List. C'est la fiche des actions réalisées. Cette fiche va constituer l'ensemble des tâches que tu as réalisées. À quoi cela sert-il ? Bien, simplement à contrôler que tu as réalisé un maximum de tâches que tu t'es donné à faire, mais aussi que ne pas culpabiliser si tu arrives pas à tout faire. En effet, tu vas regarder rétrospectivement l'ensemble des tâches que tu as déjà faites et en être plus satisfait. En effet, si un jour tu as des idées négatives en te disant que tu n'arrives pas à avancer suffisamment rapidement dans tes révisions, tu peux tout simplement te consoler en regardant la did list que tu complètes jour après jour. Tu vas observer l'ensemble de ton travail et en être fier. La plus pratique étant d'utiliser un petit calepin en écrivant sur chaque page à gauche la to-do list et sur la page de droite la did list. Comme ça, en soirée, soir de préférence, tu inscriras l'ensemble des tâches que tu vas devoir réaliser le lendemain sur la to-do list. Le soir d'après, tu pourras inscrire à côté de la to-do list l'ensemble des actions que tu as réalisées. Directement translater des tâches que tu n'as pas faites dans la future to-do list du lendemain et ainsi, jour après jour, augmenter ta capacité de production. Cette méthode va te permettre de ne jamais avoir à réfléchir en pleine journée à quelles tâches tu pourrais faire vu que tu as un peu de temps. Le fait de ne pas te laisser le choix dans l'organisation d'une tâche va te permettre de libérer énormément d'énergie mentale pour effectuer la tâche en elle-même. Soir après soir, tu vas pouvoir observer ton avancement et probablement t'endormir sans culpabilité de ne pas avoir suffisamment avancé au cours de ta journée, mais plutôt avec un sentiment de travail accompli sans stress. Deuxième élément important à réaliser, c'est de savoir dire stop. Après avoir pu évaluer la quantité de travail que tu fournis, il est important d'arriver à faire une pause au cours de tes journées. La pause est ici nécessaire au bon fonctionnement de ton cerveau. Je vais te révéler les trois meilleures techniques pour mettre au repos ton cerveau. Dans un premier temps, je vais te montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Après avoir travaillé tes cours pendant 1 à 2 heures, tu vas ressentir une lassitude, une baisse de la concentration, voire des douleurs de la tête comme une migraine. Ces signes sont ceux de la surcharge mentale, du trop-plein d'informations qui arrivent à ton cerveau. C'est à ce moment-là que tu vas devoir faire une pause. À ce moment, surtout ne regarde pas ton téléphone, la télévision ou des réseaux sociaux. C'est là un des points principaux, le principal piège dans lequel de nombreux étudiants tombent au courant de leur révision. Quand tu souhaites faire une pause, tu vas avoir envie de te divertir rapidement et efficacement. C'est exactement ce que vont t'apporter ton smartphone ou Internet. Le problème, c'est que ton smartphone va t'apporter quelque chose de très efficace, très rapidement, ce qui va sécréter de l'endorphine et de la dopamine. Ceci va rendre encore plus difficile la reprise de ton travail. En plus de cette difficulté à reprendre le travail, le fait de regarder son téléphone, consulter ses mails, ses notifications et j'en passe, voire regarder des posts Instagram et suivre ton influenceuse préférée, tout aussi faire travailler ton cerveau. En effet, toutes ces activités sont la source d'une charge mentale qui ne va pas mettre totalement au repos ton cerveau, mais elle est bel et bien le faire travailler encore plus. À la fin de ta pause, tu auras duré probablement plus longtemps qu'une pause ordinaire, tu vas à coup sûr ne t'être pas reposé. Au fil de la journée, tu vas progressivement t'épuiser. À l'opposé, 4 actions très simples à mettre en œuvre te permettront de vraiment faire une pause dans ton travail. Que tu sois dans une grande ville, dans un studio de 15 mètres carrés, dans une chambre de colocation ou à la campagne, tu vas pouvoir les mettre en pratique. La première des techniques très puissantes est la marche en extérieur. Énormément de penseurs, d'intellectuels l'utilisent. Je l'ai moi-même utilisé tout au long de mes études. La marche en extérieur est définie par une activité sportive d'endurance à une très faible intensité. J'appuie sur ce terme puisqu'il faut vraiment une activité d'endurance très faible. L'important est de pouvoir respirer à ton aise. Le fait de marcher va empêcher une grande partie de ton cerveau de se concentrer sur des éléments qui le parasitent. Néanmoins, tu vas encore pouvoir penser à des choses. Pour cela, tu peux ajouter au fait de marcher tranquillement à l'extérieur, le fait de regarder l'horizon, les éléments qui t'entourent si tu es dans la nature, ou le fait de se concentrer sur sa respiration, une respiration calme et profonde. À l'inverse, si tu es en ville, tu peux tout à fait aller marcher dans un parc en utilisant un casque anti-bruit, en écoutant une bande son d'ambiance, des bruits calmes. En ajoutant ces petits éléments à ta balade, tu vas remplir ton cerveau d'actions qui l'empêchent au maximum de penser. Tu vas le reposer car tu utilises uniquement des commandes cérébrales automatiques, des automatiques au moteur. Si tu possèdes des aptitudes sportives un peu plus développées, tu es un peu plus fan de sport, tu peux tout à fait trottiner doucement. L'important, je le répète, c'est vraiment d'avoir une respiration calme, pas être essoufflé. Ce qui concerne la durée de la balade, il n'est pas nécessaire de dépasser 25-30 minutes. Cela te permettra amplement de faire le vide dans ta tête. La seconde technique pour mettre au repos ton cerveau, c'est le simple fait d'aller faire une sieste. Oui, je sais, ces mots poussent la majeure partie des jeunes, mais la sieste te sera bénéfique à de nombreux égards. Par exemple, elle te permet de te reposer. En 20 minutes, tu récupères facilement presque 2 heures de sommeil continu nocturne. En plus, elle te permet de mieux stocker, de mieux consolider l'ensemble des informations que tu viens d'apprendre. On sait qu'une privation ou une désorganisation du sommeil entraîne des baisses très importantes des fonctions de mémorisation. Par exemple, tu fais une sieste en plein milieu de ta journée, tu vas plus facilement stocker l'ensemble des informations que tu avais préalablement apprises. Au réveil, tu auras un cerveau bien plus frais, bien plus organisé pour reprendre ton apprentissage. Troisième technique, c'est la douche froide. Alors, t'arrêtes tout de suite, n'aie pas peur, je ne parle pas ici d'hurlement sous la douche, de brûlure, de congélation. Je parle tout simplement du fait de prendre une douche fraîche, ou bien de te rincer la tête entière avec de l'eau froide, ou même si tu ne veux pas te décoiffer, juste de prendre un gant de toilette avec de l'eau fraîche sur ton front. L'effet recherché, c'est la vasoconstriction des artères de la tête. Il s'ensuit une baisse de la pression sanguine sur ton cerveau, et notamment la baisse de la dilatation des veines autour de ton cerveau. C'est cette dilatation des veines dans ton cerveau qui est la source de l'impression de tête chaude, de tête prête à exploser, de migraine à la fin de la journée. Tu vas voir que quelques minutes de fraîcheur sur ton front, sur ta tête, vont largement suffire pour faire énormément baisser la tension cérébrale que tu as. La quatrième méthode est sûrement la plus puissante avec la première méthode, c'est la méditation. Alors la méditation, il faudrait plusieurs heures pour comprendre, expliquer comment ça marche, mais c'est une méthode qui se rapproche de la méthode de la sieste. La méditation, c'est le fait de chasser toutes ces pensées de ton cerveau et librement le laisser court. Tu vas te concentrer sur quelque chose de simple, par exemple la respiration, et probablement ton cerveau va tranquillement repousser l'ensemble de ces pensées qui sont intrusives dans celui-ci. Même après 5-10 minutes de méditation, tu vas éprouver un état de relâchement et de liberté totale de ton cerveau. Ce qui me concerne, j'ai utilisé les 4 méthodes durant mes études de médecine. J'ai découvert les bienfaits de la méditation probablement un peu trop tard, mais bon, j'en ai pas bénéficié au début de mes études. En 6e année, année du concours de la spécialité, j'avais organisé mes journées de travail très spécifiquement en incorporant chaque jour les 4 pauses qui utilisent ces méthodes. Le matin, je prenais systématiquement une douche fraîche, je déjeunais, puis à 11h30, j'allais directement faire une sieste après la digestion pendant 30 minutes. Ceci me permettait de ne pas éprouver la fatigue postprandiale due à la digestion, à l'hyperglycémie, et consolider l'ensemble des informations que je venais d'apprendre durant la matinée. À 17h, j'allais faire mon footing de 30-40 minutes, tranquillement, puis je reprenais le travail jusqu'au soir. J'essayais d'incorporer chaque jour une séance de méditation, une séance que j'essayais d'incorporer au moment où je sentais la pression monter trop importante, ou bien si j'étais en train de saturer. Souvent, soit vers 16h, soit plutôt vers 19h, mais des fois aussi déjà à 10h30 quand j'en pouvais plus la fin de matinée. Le troisième point important, c'est la méthode de travail. En ce qui concerne la méthode de travail, la méthode que tu dois utiliser est basée sur le minimalisme. Il faut vraiment essayer de te vider complètement la tête de toute possibilité de distraction sur ton lieu de travail. Réviser et apprendre un cours ne nécessite pas de smartphone allumé, connecté à Internet, un ordinateur avec YouTube qui fonctionne en musique de fond ou de multiples crayons, surligneurs, stylos. J'avais déjà pu t'expliquer que le fait d'écrire sur papier te permet de retenir davantage d'informations que le format numérique. Je suis le partisan d'un support de travail très simple et précis. Utilise quelques cahiers, des feuilles, 3-4 stylos ou surtout le moins de supports différents possible. Prends avec toi ton système de prise de notes ou de rédaction de fiches pour les révisions sous forme de restitution active. N'utilise pas trop d'applications de prise de notes Un éditeur de texte simple comme Word ou tout autre, un logiciel de fiche de révision pour la restitution active comme Anki, et un logiciel de prise de notes, par exemple les simples prises de notes pour tes tâches ou organiser ta journée, avec le logiciel intégré à ton ordinateur ou ton smartphone. N'essaie de pas complexifier la tâche. Plus tu complexifies, plus tu vas perdre du temps et être moins productif. Le dernier point important à évaluer dans ce podcast, c'est le fait de programmer, prioriser pour diminuer ta charge mentale. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, la programmation et l'organisation sont deux piliers essentiels de ta méthode de travail pour réussir. Tu vas devoir faire des choix de tâches à faire en premier ou en second. Tu ne pourras pas tout faire. En plus de choisir quelles tâches tu vas effectuer en premier, après les avoir définies, ton cerveau va passer tâche en tâche successivement après les avoir successivement réalisées. À l'inverse, cela va lui éviter de penser à une autre tâche alors même que tu n'as pas fini la première et ainsi de suite et probablement progressivement s'embrouiller. Tu vas concentrer ton cerveau sur l'exécution des tâches primordiales en premier, puis sur celles qui sont peu importantes. Je te donne un exemple. Tu vas d'abord effectuer ton planning de travail, puis réaliser quelques chapitres de révision avant de penser seulement à faire ta liste de courses alimentaires ou devoir chercher une commande dans ton commerce local. Il est important que tu arrives à te dire « Non, je ne ferai pas ça aujourd'hui, car ce n'est pas important. Ton exécution ne m'apportera rien dans ma réussite des études en médecine. » Essaie au maximum de prioriser pour rendre ta journée l'exécution des tâches importantes. Premier, car c'est celles-ci qui vont te demander le plus de concentration et le plus de motivation cérébrale. Au fil des heures, ton cerveau va se fatiguer et tu vas avoir de moins en moins de force pour effectuer les tâches intellectuelles. Au cours de ta première année de médecine, il est aussi important que tu demandes de l'aide à tes amis ou à ta famille. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une force. Si tu arrives à savoir quand tu n'arriveras pas à tout faire, c'est très important. Cette demande d'aide peut aller jusqu'à des petites actions, comme des actions facilement délégables, aller faire des courses, récupérer un document, compléter un dossier administratif, chercher une commande que tu as demandé à être livrée, bref, plein d'exemples. Pour t'aider, je propose d'utiliser le diagramme d'Eisenhower qui va te permettre de classer par ordre de priorité l'ensemble des tâches que tu vas devoir réaliser ou pas. Voici un exemple de diagramme d'Eisenhower. Tu peux le consulter, je vais le poster directement sur le groupe Facebook et sur mon site internet que tu auras en lien dans la description. Ce diagramme, créé par l'ancien président des USA, lui a permis de maintenir un haut niveau de productivité et d'efficience dans ses actions. Ce diagramme permet de choisir la priorité pour chaque action que tu dois ou que tu veux faire. Le choix, comme nous allons le voir, se divise entre le critère d'importance et le critère d'urgence. Ces deux critères permettent donc de créer un tableau à quatre cases. Les quatre possibilités sont pas urgent et pas important, c'est donc une action à abandonner. Pas urgent mais important, c'est une action à planifier. Urgent mais pas important, c'est une action à déléguer. Et urgent et important, c'est évidemment une action à programmer, à traiter en priorité. En plus de pouvoir organiser ton travail, de le prioriser, ce diagramme te permet de prendre du recul sur l'intérêt que revêt la réalisation d'une tâche. Est-ce que le fait de refaire un schéma d'anatomie, car il a été déchiré, est prioritaire sur le fait d'apprendre ton cycle de Krebs? À toi de répondre. En conclusion, pour réussir, il faut avancer jour après jour, sereinement, dans ton apprentissage. Arrête avec les questions intérieures, les questionnements existentiels, les actions inutiles, mais concentre-toi sur l'essentiel. Je t'ai montré comment quatre actions simples à appliquer te permettront de diminuer ta charge mentale et éviter tout burn-out au cours de tes révisions. À présent, tu vas pouvoir en 2 semaines mettre clairement en pratique les conseils que je viens de te promulguer et décupler ta productivité sans augmenter ta charge mentale. Tu vas rapidement observer un rythme plus aisé à prendre avec ces méthodes. Pour résumer ce podcast, très rapidement, la charge mentale représente la quantité de pensées qui te traversent l'esprit au cours d'une journée. Il faut l'évaluer dans un premier temps, la planifier avec des listes de tâches quotidiennes. Sois plus productif en t'aidant du diagramme d'Eisenhower, te permettra de prioriser tes actions. Fais des pauses cérébrales avec la marche, le sport, la la sieste, la méditation, la douche froide, développe et utilise une méthode de travail la plus minimaliste possible. À bientôt pour le prochain podcast de Réussir Médecine et n'oublie pas que la différence entre toi et celle qui va réussir ses études de médecine réside dans la méthode de travail que tu vas utiliser. Allez, ciao et à bientôt.